Parce qu'en immobilier, faut être à son affaire. Suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
Pendant que votre attention est centrée sur vos urgences du matin, vos réunions d'affaires du midi, votre retour à la maison ou votre emploi du soir, celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises à toute heure du jour. Grâce à notre connaissance des secteurs d'activité et à notre accompagnement spécialisé, nous aidons les entrepreneurs à relever chaque défi pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, le développement de leur entreprise.
Savoir et comprendre les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes.
Bienvenue à Tout savoir en 24 minutes. Bonjour Mario.
Bonjour.
Quel job qu'on fait ici au bureau d'enquête pour suivre la guerre entre le PIC et les Hells. Encore aujourd'hui, donc, des arrestations.
Il y a quand même une petite affaire qui traîne dans le décor. Je sais pas à quel point c'est vrai, mais je peux le comprendre. Tu sais, tant que tout va bien, tu sais, le PIC est en Europe, gère ça à distance, go les boys. Mais quand là, ça se met à rentrer en prison puis à se faire ramasser, puis la police, puis tout ça,
ouais.
Il peut en avoir dans le groupe qui vont trouver que le PIC est...
Il est bien.
Il est bien, là.
Il est bien, puis là, il commence à trouver que c'est peut-être sa situation pourrait être plus inconfortable là, pour
ouais.
Essayer ouais. d'être équitable, mettons.
Ouais, c'est ça.
On sait qu'il y a eu 18 arrestations lors de la fin de semaine. Il y en a eu 17 qui étaient directement liées au PIC. Et il y en a eu d'autres encore
aujourd'hui.
Ouais. Donc, de plus en plus on se rapproche du PIC et la Blood Family Mafia, la tête donc de la Blood Family Mafia, et sont de plus en plus affectés. Là, selon donc les gens qui suivent ça de près, ils sont très fragilisés. Et là, il y a peut-être de ceux qui sont arrêtés qui seraient tentés peut-être là, de faire des dénonciations. Donc, notre équipe suit ça de très près. Franchement, là, je pense à Félix Séguin, je pense à Catherine Lamontagne à Québec. L'équipe Éric Thibault, donc l'équipe du bureau d'enquête qui suit ça de très près.
Savoir et comprendre, tout savoir en 24 minutes.
On se retrouve sur la rive sud de Montréal alors que le projet Nordvolt continue de faire couler beaucoup d'encre et va en faire encore couler cette semaine parce qu'on commence lundi avec un sondage où on montre un appui important pour le projet. Là, on a sondé les gens de la population locale.
Bon, les six villes directement ou indirectement touchées. Là.
Plus les deux qui sont directement touchées. Donc, sans trop de surprise, en tout cas, tu me diras ce que t'en penses, mais il y a un appui très fort pour le projet. On dit des fois que c'est des pas dans ma cour, mais des projets de cette ampleur-là, peut-être que ça attire beaucoup plus de sympathie de la part des gens qui voient peut-être des emplois bien payés, une activité économique. Donc, 70% de la population locale est en appui au projet Nordvolt. Et quand on pose la question aux gens qui restent à McMasterville et Saint-Basile-le-Grand, on monte à 80%.
Ça, c'est ceux qui l'ont sur leur territoire
exactement.
Directement.
Donc, est-ce que c'est surprenant d'abord? J'aimerais ça savoir si c'est surprenant. Puis est-ce
c'est surprenant. C'est fort. Moi, j'ai toujours pensé qu'il y avait une majorité qui était favorable. J'avoue, c'est maintenant. Parce que le 70%, 72% pensent que c'est un bon projet. Mais ce que j'appelle, moi, la question dure, quand Léger demande, là, malgré les critiques puis tout, est-ce que ce projet doit se réaliser, là? Tu sais, c'est ça ce que j'appelle, moi, la question, c'est la question hard, la question dure. Est-ce que le projet doit se réaliser? 70% disent oui, 25% disent non. Donc, c'est fort. Compte tenu qu'on peut pas dire, ah, ben là, tu sais, ça a été dopé, là, tu sais, t'ouvres la TV, tout le monde en parle en bien. Non, ça fait trois mois, t'entends juste chialer contre le projet, t'entends juste du négatif. Fait que, tu sais, tu te dis, quand même, là, mettons, les gens qui sont pour, il faut qu'il y ait une certaine résistance, disons, à l'atmosphère publique, il faut vraiment qu'ils soient convaincus pis qu'ils disent, bon, ben, tout ce qui se dit, ça me coule sur le dos comme l'eau sur le dos d'un canard. Donc oui, j'ai été surpris par la force, mais tu sais, c'est... Puis tu sais, les médias, on est un peu dans un entre-deux là-dedans. Parce que, est-ce qu'on donne...
On va pas donner un chèque en blanc à Fitzgibbon en disant
non.
Tout ce que tu fais, c'est beau.
Non, là. Mais là, ce qu'on se fait dire, ce qu'on se fait accuser, j'en reçois plein de messages, ça n'a pas de bon sens, là, vous donner une place démesurée à une petite minorité bruyante, puis on les entend tout le temps, puis vous leur donner le micro.
Mais en même temps, ils ont de l'impact, là, tu sais.
Oui, en même temps, c'est un peu notre rôle, dans le sens que quelqu'un critique, soulève des questions précises, t'espères que le gouvernement va apporter les réponses aux questions qui sont posées. Mais des fois, en même temps, on n'est pas fou, on se rend compte que c'est des fausses questions. Tu poses une question sans réponse pour pouvoir dire, ah, tu vois, j'obtiens pas de réponse. J'obtiens pas de réponse à mes questions. Mais c'est ça. Donc, personne pourra dire que le taux d'appui est dopé, là, est gonflé à l'hélium par une atmosphère ambiante trop favorable.
Mais est-ce que le fait de sonder les gens qui sont directement ou indirectement proches concernés, est-ce que ça touche? Pourquoi on sonde pas tout le monde, là?
Ben, ce serait un autre.
C'est l'argent de tout le monde, là,
Ça serait un autre sondage à faire. En fait, celui-là, il mesure surtout ce qu'on pourrait appeler l'espèce d'acceptabilité sociale.
Dans la région.
C'est ça. Si tu vis à Val-d'Or, t'es impliqué parce que si jamais ça foire, ben là, c'est tes impôts qui vont être perdus là-dedans un peu. Mais c'est juste ça. T'auras pas le trafic, t'auras pas le bruit, t'auras pas les problèmes, là, t'sais.
Bon, il y avait d'autres questions dans le sondage, évidemment.
Ouais.
Il y avait une qui m'a. Peut-être qu'on le voit en une contradiction, mais il dit il y a 66% des gens qui auraient été d'accord ou même qui trouveraient nécessaire de faire un BAP pour le projet.
Ouais. Donc, les gens auraient préféré un BAP. Par contre, quand tu leur poses la question, sachant qu'il n'y a pas de BAP, êtes-vous d'accord que le Nordvolt a consulté les autorités locales? Les gens disent, ben oui, on a quand même été...
Ils considèrent qu'ils ont été consultés.
Ils ont été consultés, mais ils auraient aimé mieux un BAP. C'est quand tu lis les deux questions en parallèle, là, ils ne considèrent pas qu'il n'y a eu aucune consultation, parce qu'il y a une majorité qui, je pense, c'est 66% qui considèrent qu'il y a eu de la consultation. Mais 68, il y a comme 2% de plus qui auraient aimé un BAP.
66 qui disent qu'ils auraient aimé mieux un BAP.
Ben, c'est ça. Peut-être 64. Alors, c'est deux de moins là, qui disent, ben, il y a eu quand même de la consultation. Fait que, est-ce que ces deux-là sont contradictoires? Moi, je pense que pas vraiment. Ça, c'est comme si tu disais, ben ouais, on a été consultés, mais on aurait aimé mieux un BAP. Maintenant, est-ce que les gens... Je sais pas jusqu'à quel point c'est clair pour les gens un BAP. Je donne un exemple précis. Le tramway de Québec, qui était un projet qui était vu comme un projet environnemental, pis tout ça, tu sais, d'avoir un tramway, c'est la seule ville qui a pas un transport en commun. Mais le BAP avait fait un rapport dévastateur sur le tramway de Québec, là, que c'était le mauvais projet, que c'était pas la bonne affaire, c'était pas ça du tout, là. Puis là, à ce moment-là, les environnementalistes avaient dit, ah ben là, le BAP, là, il faut que le tramway se fasse.
Bien aller, oui, non, je comprends.
Fait que tu sais, un BAP, c'est pas non plus comme, c'est pas comme une affaire qui te fait une étude, comme une étude pharmacologique pour dire le médicament, il est-tu efficace, oui ou non, puis s'il est pas efficace, on abandonne les recherches. Ça donne une étude d'impact qui donne des indications et la décision revient au gouvernement pareil. Même si tu fais un BAP, puis le BAP dit, attention à ceci, attention à cela, le BAP n'est pas décisionnel, là.
Puis je terminerai en disant que on a aussi demandé aux gens, là, peut-être pas qu'ils ont l'expertise, mais ils considèrent à 60% que la filière batterie honorera ses engagements en matière d'environnement. Donc ça, est-ce que
ça, c'est un feeling.
C'est un feeling, là. Ouais, ouais. Là mais ouais. C'est quand même moins le monde qui pense que c'est bon d'investir là-dedans pour la transition qu'ils veulent.
Ouais, ouais. Mais en bout de ligne, pour moi, la vraie question, moi, comment je me la pose, c'est le Québec, là, moi, j'ai grandi en politique. Là, j'étais dans les jeunes libéraux à 17, 18, 19 ans. Mais je me souviens de la frustration. Là, puis tous les partis, le PQ, puis même le Parti libéral, ils s'entendaient sur le fait qu'au Québec, on se faisait avoir parce qu'on n'avait pas l'automobile. Puis l'Ontario avait l'automobile. Puis le fédéral donnait toujours de l'argent pour l'automobile. Puis il reste que c'est une industrie... Tu sais, cette industrie-là est hors catégorie.
Mais nous, on avait Bombardier, puis on avait l'aéronautique.
Ouais, on avait l'aéronautique. Puis là, quand on recevait une pièce pour l'aéronautique dans le Canada anglais, ça chialait, il y en avait cinq. Et là, il y a comme une nouvelle génération de motorisation automobile avec des batteries. Fait que la question est pas de la question, c'est on est-tu dedans ou on n'est pas dedans? La question n'est pas de savoir ça va-tu se faire ou ça se fera pas. Non. En Ontario, ils s'implantent des usines. Aux États-Unis, ils s'implantent. Je pense présentement, il y a 26 projets d'usines de batterie aux États-Unis. Au Québec, présentement, on a 2-3 dans le coin de Bécancour. Puis cette grosse-là, une espèce de vrai cellulier à McMasterville-Saint-Basile. Si on dit non à ce projet-là, mais c'est juste, on laisse passer. C'est comme, mettons, en 2035, là, ou en 2040, on va être revenu, à mon avis, à dire, ben, il y a ça, là, la filière batterie, puis il y en a en Ontario, il y en a aux États-Unis, puis nous, on n'en a pas.
Non, mais on est toujours un peu ébranlé par les grands projets qui sont financés en grande partie par le gouvernement aussi.
Ouais, mais ça, c'est exagéré. Parce que là, le chiffre de 7 milliards qui circule, là, ce chiffre-là, sans niaiser, là, il est débile. Là. Je dis pas, je suis pas en train de dire qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Là. Il y a un 2 milliards et demi.
Mais il est sur plusieurs années.
Il n'est pas juste sur plusieurs années. Toute la partie finale, là, c'est qu'on va subventionner de la production. Donc là, ça implique, là, il n'y a pas de flop, là. L'usine à l'opère, c'est une façon de subventionner comme pour être sûr que tu vas pas perdre ton argent dans un éléphant blanc. Tu dis, OK, on subventionne la tête à construire ton bâtiment, tu sais, au début, pour ouais. Un bout. Mais après ça, la façon qu'on va t'aider à améliorer, on va subventionner la production. Donc là, il faut que l'usine soit en marche.
Mais là, moi, comme contribuable, tu sais, je vais pas dans le fond du rapport financier pour savoir à quoi a servi mon milliard.
Tu as tout suivi le journal.
J'ai mis 7 milliards.
Oui, mais c'est ça, mais t'as pas mis 7 milliards.
Dans une usine qui en perd autant en Suède en ce moment.
C'est ça, t'as pas mis 7 milliards. Mettons là, que t'en as vraiment à risque, là, mettons, fédéral, Québec, tout inclus, 2,5. Ça, c'est pas vrai. Après ça, le reste, on va subventionner la production. Mais là, la journée qu'on va subventionner la production, ça veut dire que l'usine roule. Cette journée-là, il y a plein d'argent qui revient des impôts, des taxes. C'est une activité économique qui roule. Fait que t'en remets.
Mais on n'est pas là.
Non, on n'est pas là encore.
Tout savoir en 24 minutes.
Je sais pas si tu as vu passer ça, Mario, mais ça fait 2-3 ans maintenant là, qu'on a les fameux bracelets anti-rapprochement.
Oui.
Puis j'ai vu quelques nouvelles sortir là-dessus, puis je commence à me dire, coudon, quel genre de bracelet on leur met, parce que on est rendu, imagine-toi donc, au cinquième incident d'un individu qui a réussi à se débarrasser de son bracelet anti-rapprochement. Puis depuis 2023, donc, là, qu'on a commencé à implanter des bracelets, donc ça fait déjà 5 cas en moins de un an.
Mais je suis un petit peu étonné de ça. Moi, d'abord, je suis bien favorable à ça, les bracelets. Là. Je trouvais que c'était...
Ben, depuis le temps qu'on en parle, je veux dire, ça fait plus que 20 ans.
Mais je sais pas, je voyais en France, ils font ça ailleurs. On n'a-tu pas les bons bracelets? On a-tu...
Écoute, la plupart ont réussi à le casser. Puis là, y a, en plus...
Parce que techniquement, là, tout ce qu'il brise, dès que le contact est perturbé, donc tu le casses, tu l'arraches, tu le brises, c'est censé avoir l'effet du déclenchement de l'alarme.
Exact.
Le même déclenchement d'alarme que si tu t'approchais de ta victime potentielle.
Puis, chez SOS Violence Conjugale, oui, dis-je bien, Claudine Thibodeau dit « Je ne suis pas surprise que ces gens réussissent à détourner le mécanisme. Ça démontre une grande volonté à contourner les règles pour poursuivre une tentative d'agression ou de contrôle sur leur partenaire. »
Oui, mais c'est pas supposé être possible.
Mais c'est ça, c'est que le bracelet est fait, entre autres, pour rassurer les victimes. Là, t'sais.
Fait que c'est certain que si le bracelet... foire, là, c'est pire que pire, d'une certaine manière, parce que là, t'as un faux sentiment de sécurité,
exact.
T'as une personne qui se méfie plus, puis qui dit, c'est sûr à 100% qu'il est pas, mettons, dans 2 kilomètres de mon rayon, de rayon de moi. Fait que ça, c'est... Mais c'est le genre d'affaire, c'est le genre de nouvelle, je peux... Regarde, moi, je suis pas un technicien du bracelet, je suis pas un électromécanicien...
T'aurais pu, par exemple.
Non, oui, mais c'est ça.
Modestie.
Non, mais c'est juste que tu te dis, voyons... Comment ça qu'au Québec, on n'est pas capable d'utiliser un outil qui a l'air à marcher ailleurs? C'est juste ça ma question.
Tout savoir en 24 minutes.
Bon, un sujet qui a été beaucoup discuté aujourd'hui à Cube, mon cher Mario, c'est...
Mais moi, je veux dire que ça m'a jeté à terre. Là. Tu parlais des Keb, là.
Ouais. Le texte de...
Je l'ai lu 5 fois.
Ouais, bon, écoute, Jean-François Lisée, donc, qui a écrit un texte dans Le Devoir. Puis je vais prendre une citation pour vous donner un peu le ton pour ceux qui n'ont pas lu le texte. À un moment donné, il raconte donc une histoire. Il dit « Alors que nous étions en pleine... » Ça, c'est un prof qui parle. « Alors que nous étions en pleine discussion sur nos valeurs, un des deux élèves de souche a levé la main pour s'exprimer. C'est alors que tout le groupe s'est mis à rire et à huer en disant que les Kebs n'avaient pas de valeur et que nos filles et nos femmes sont en fait détraînées. » Et je suis rapidement intervenu et fut coupé par un grand gaillard d'origine maghrébine, c'est toujours la professeure qui parle, et qui lui aurait lancé « Madame, vous ne pouvez pas comprendre parce que les Kebs, vous n'avez pas de culture, vous faites des trucs de blanc comme aller au chalet et faire du ski, et vous n'éduquez pas vos enfants. » Donc évidemment, c'est une anecdote que Jean-François Lisée raconte.
Mais en fait, c'est plusieurs anecdotes qui tendent à décrire que les jeunes Québécois de souche vivent du racisme à l'école maintenant. C'est de même qu'on le reçoit, là.
Oui, mais, tu sais, c'est drôle parce qu'on on lit ça, puis c'est comme si on n'est pas surpris, entre guillemets, là, qu'il y ait ce genre de langage-là entre étudiants dans des écoles. Mais
là, c'est pas juste dans le cours d'école, c'est que dans le cours, officiellement, on...
Ils n'ont pas de gêne.
Non, aucune gêne.
Il n'y a aucune gêne. Donc, ça a déclenché toutes sortes de réflexions
mais
ici.
Mais moi, en fait, c'est drôle, parce que quand j'ai lu le texte de Jean-François Lisée, j'ai repensé à ce texte de la presse deux mois passés, qui avait assez bien là, décortiqué les statistiques démographiques des écoles de Montréal. Et qui disait finalement le modèle de l'école multiculturelle. Tu sais, il y a été un temps là qu'on, je me souviens, il y a eu beaucoup de reportages là-dessus là, dans les années 90-2000. Tu sais, à l'école à Côte-des-Neiges ou des écoles à Montréal, on disait des jeunes de 63 nationalités différentes. Ils se parlent des langues maternelles, il y en a 29 différentes. Des Québécois de souche sont juste 12 sur un groupe de 40. T'sais, c'est montrer là, la diversité. Et là, la presse disait non, là, on s'en va complètement ailleurs. C'est des écoles sans diversité. C'est-à-dire que t'es dans une espèce de ghetto où toutes des gens de la même communauté culturelle se ramassent dans la même école. Et là, tu comprends que, ben, mettons, si t'as une école arabe, Mais là, le jeune juif que ses parents déménagent dans le quartier, ça va-tu bien aller pour lui? On n'est plus sûr, là. C'est comme si t'as plus l'espèce de diversité, ouverture, acceptation. Et là, tu te dis, OK, mais là, est-ce que le jeune Québécois de souche, lui, est encore bien accueilli dans toutes les écoles québécoises? C'est loin d'être clair, là.
Surtout quand on apprend que dans la région de Québec, on est obligé de déplacer des étudiants de l'école primaire et parce que il y a trop d'arrivants puis on sait pas comment les gérer, on leur choisit des écoles. Il va avoir, on le sait, là, la capacité d'adaptation
d'accueil.
D'accueil, merci, pour les immigrants est contestée en ce moment. On sait pas comment ou quelle est notre capacité, mais clairement...
Puis il faut voir dans l'avenir aussi, tu dis, ça va être quoi l'école au Québec dans 10 ans, ça va être quoi dans 20 ans, puis là-dedans, le texte de Jean-François Lisée parle d'un autre, parce qu'il y a plusieurs comme phénomènes en parallèle, il parle de tout ça qui se transforme, parce que c'est aussi que les Keb, comme c'est passé mode de parler français et de défendre le français, ben là, les cool, là, ils parlent anglais dans un corridor. D'un corridor d'une école... française, d'une école privée, qui est une école...
Oui, il y a un professeur du Cégep Garneau qui témoignait de ça, justement, en fin de semaine, là, en disant... Lui, il a jamais vu ça. Là, régulièrement, il tombe sur des étudiants à Québec, au Cégep Garneau, qui parlent anglais dans les couloirs entre eux.
Puis même des francophones qui pourraient avoir l'air à mode, là, pour avoir l'air du bon côté, pas avoir l'air du...
D'un keb.
Ben oui, d'un keb, là, d'un tête. Parce que keb étant défini comme espèce de têteux qui défend une vieille
là,
culture archaïque.
C'est comme si ce néologisme vient de naître, là.
Ouais, ouais.
Comme c'est là, il y avait woke, là, l'année passée, qui est né comme néologisme au bout de 2 ans.
Mais
là...
keb, c'est le vieux loser. C'est la ceinture fléchée à 17 ans, tu sais, qui voudrait défendre sa langue, sa culture, toute cette merde-là qu'on n'a pas besoin. Ça fait peur. Sincèrement, c'est
inquiétant. Tout savoir en 24 minutes.
Bon, Mario, il va falloir que tu commences à penser à ton après-carrière bientôt.
Oui.
Mais t'es pas le seul à y penser parce que la ministre de l'Emploi...
J'écoute ses annonces avec intérêt, là.
Catherine Champagne-Jourdain, avec le conseil du patronat, hein, ils ont la CAQ, c'est pas à la mode, là, souvent, se donner des partenaires dans des projets. Ces temps-ci, ils sont pas mal seuls au monde. Mais ils sont avec le conseil du patronat, donc essaient de... Ils disent qu'ils veulent rattraper l'Ontario et essayer de garder ces travailleurs de 60 à 69 ans sur le marché du travail. On a eu d'ailleurs Catherine Champagne-Jourdain en entrevue aujourd'hui. On l'écoute, c'est ma deuxième clip, pas la première, la deuxième.
Prise. Mais entendez-moi bien, si ce programme-là est un succès, on va chercher la manière à pouvoir l'étendre à toutes les entreprises qui auront besoin, qui auront un intérêt, mais qui auront besoin d'être accompagnées pour développer leurs pratiques, pour améliorer leurs pratiques, pour faire une place, retenir la main-d'œuvre, c'était bien important, puis faire une place aux 60-69 ans qui veulent revenir sur le marché du travail.
Parce que il y a des gens qui ont quitté le marché du travail, peut-être dans un contexte X, et qui aimeraient y revenir, puis je sais pas, c'est pas pour toi, Mario, mais peut-être que tu as des gens que tu connais, mais quand tu as 60 ans et plus et que tu veux retourner sur le marché du travail, tu sais, t'es pas le hot ticket, là, c'est difficile.
Ouais, mais là, il y a des besoins de main-d'œuvre. C'est juste que je
mais
pense...
ça dépend pas dans tous les domaines.
Non.
Et les besoins de main-d'œuvre, veut pas.
Ça s'est calmé avec le ralentissement économique.
Ça s'est calmé avec le ralentissement économique. Puis quand t'es une compagnie qui a un besoin de main-d'œuvre, ben, tu sais, est-ce que tu investis dans la formation, dans tout ça pour une personne de 67 ans qui revient de 10 ans hors du marché du travail?
Mais quand tu manques d'employés, quelqu'un qui, mettons, qui connaît déjà le domaine, là, puis si on l'a vu, l'exemple classique, mais c'est quand même vrai, dans les magasins de matériaux, c'est quelqu'un qui a passé sa vie sur la construction.
Mais ça, c'est trop cliché, tu sais, le gars qui va vendre des vis chez Rona.
Oui, mais c'est quand même ça, là, tu sais. C'est oui. Quelqu'un. Tu sais, ils ont pas d'employé. Entre embaucher un jeune de 17 ans, qui sait rien faire dans une maison, qui sait pas changer un tuyau, qui sait rien, puis quelqu'un qui a passé sa vie là-dedans pour conseiller quelqu'un, puis que, la personne arrive avec ses 2-3 morceaux de quelque chose de brisé, il retrouve. Fait que, mais c'est. Donc, il y a de l'intérêt. C'est juste que moi, je pense que les personnes de 60 ans et plus, c'est la souplesse pour beaucoup, là. Ils vont dire, ah, moi, je veux pas travailler l'été, je veux pas travailler l'hiver, je m'en vais en Floride, ou je veux pas travailler plus que 25 heures par semaine, ou je veux des fins de semaine de 3 jours ou de 4 jours. Et là, je pense que c'est beaucoup ça, l'initiative du gouvernement, avec les conseillers en ressources humaines, avec le conseil du patronat, c'est d'amener les entreprises à dire, si vous voulez avoir des gens de 60 ans et plus, trouvez-leur des accommodements, trouvez-leur une façon de leur faire une place dans l'entreprise. L'autre affaire, c'est le sentiment, la perception. C'est drôle parce que pendant la conférence de presse ce matin, il y a madame, je pense, Lucie, là, qui m'a écrit, me dit, ah, ben là, tu nous fais travailler. Moi, j'ai fait le calcul, puis elle me donnait tous ses chiffres, ça. Et il nous en reste quasiment pas. Et ça, au gouvernement, ils jurent que c'est faux. Et donc, ils ont mis un calculateur. Ils jurent que c'est faux, mais là, tu sais, tant qu'on ne met pas de chiffres là-dessus, on parle en théorie. Ils ont mis un calculateur là, sur le site Internet, sur québec.ca, là, pour les gens qui sont dans le groupe.
Rentrez votre pension, rentrez ce que vous avez votre
tu rentres toutes tes données.
Puis, rentrez votre nouveau salaire, voici ce qui vous reste.
Ce qui va vous rester. Puis, ils disent que les gens vont être agréablement surpris, surtout avec les nouvelles règles qui sont en vigueur depuis l'année passée, là, que les gens vont être agréablement surpris, que c'est plus vrai là, qu'il t'en reste pas.
Donc, comme on entendait Catherine Champagne-Jourdain, c'est un projet pilote. Alors, on va voir si ça va être un succès. C'est $1 million. Donc, c'est pas comme un projet, là, un chantier incroyable.
Un petit projet pilote.
Oui, exact. Donc, on espère que ça va fonctionner.
Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
Bon, Mario, tu sais que plusieurs jeunes ont malheureusement manqué plusieurs jours d'école en raison de la grève. Mais bonne nouvelle. Du moins pour ceux qui demeurent en Beauce, parce que en vue de l'éclipse totale du soleil qui aura lieu le 8 avril, et on en parle de cette affaire-là, c'est incroyable. Là, c'est comme...
Moi, j'ai écrit là-dessus, ça a lancé un débat que j'avais insoupçonné. D'abord, beaucoup de gens qui étaient d'accord avec moi que ça n'a pas de l'heure de manquer de l'école pour une éclipse solaire, mais
oui,
pas
parce
tout
que
le monde.
Il y a plusieurs. Il y a plusieurs.
Il y a bien des gens qui sont d'accord que tout est prétexte à manquer de l'école.
Oui, mais là, il y a plusieurs centres scolaires, donc centres de services qui ont annoncé que cette journée-là, ce serait fermé, il n'y aurait pas d'école. Il y en a deux autres qui l'ont annoncé dernièrement. On parle de, je vais vous dire ça, il y a Lanaudière et Mille-Îles, le centre de service scolaire des Mille-Îles. Donc, c'est 46 000 étudiants, élèves à Laval.
Il y en avait deux dans les cantons de l'Est. Là.
Il y en avait dans les cantons de l'Est. Et donc, c'est le centre de service scolaire des Affluents, 50 000 élèves dans Lanaudière. Donc, qui, dans plusieurs cas, on dit que c'est trop risqué pour les enfants, que l'heure à laquelle va se dérouler l'éclipse. Souvent, c'est la fin des classes. Et
faut
Mario,
pas qu'il la regarde.
Faut pas qu'il la regarde.
Mais s'il n'y a pas d'école, le jeune est tout seul chez eux, là, on est sûr, sans aucune supervision...
Il va regarder son cellulaire, il va être correct.
Ah ouais, c'est ça.
C'est pas fou. Mais, mais Mario, là, une des principales raisons qui a été invoquée pour ne pas donner congé aux élèves cette journée-là, ou donner congé aux élèves cette journée-là, c'est que le service de raccompagnement scolaire, donc de transport scolaire, ne pouvait pas être changé, c'était impossible.
Changer l'heure des autobus.
Impossible. C'est impossible. Fait que, tu sais, devant l'impossible.
Ouais.
Nul
non, mais
n'est tenu.
Pour vrai, moi, je peux pas croire, là, je l'ai écrit, je leur dis. Dans une année, on a manqué tellement d'écoles qu'on ne soit pas capable. D'abord! À la limite, là, qu'on inclut ça dans le programme scolaire.
Ben voilà, alors là, tu me donnes...
Qu'on fournisse des lunettes à tout le monde. Mais je veux dire, une journée de congé, une journée de... Là, il y en a qui se défendent en disant on a déplacé une pédagogique. Puis c'est quoi ma réponse à ça?
Ben, gardez-la pour montrer les choses aux enfants.
Il me semblait que ça se déplaçait. Il me semblait que c'était intuitif. Parce que quand on disait... Moi, je disais, après les grèves, on devrait faire sauter toutes les pédagogiques, là.
Ah non.
Mais non, disons, non, ça c'est intouchable, une pédagogique. Mais là, on peut la déplacer.
Mais là, tu vas être content parce que nos amis Beaucerons, eux...
Ils vont à l'école.
Ils vont à l'école. Bon, le centre de service scolaire de la Beauce et de Chemin annoncé, parce qu'imagine, faut que tu annonces que les cours vont avoir lieu.
Oui.
Parce que là, c'est comme si tu pars de la prémisse où ils n'auront pas lieu. Donc, ils ont annoncé qu'il allait avoir des cours cette journée-là et qu'il allait avoir donc une journée autour de ça. Tu sais, qu'il allait éveiller la curiosité scientifique des jeunes. Il allait leur donner des lunettes solaires certifiées. Ça allait être distribué aux jeunes et à tous les membres du personnel.
Il y a une association de scientifiques qui sont intéressés beaucoup à l'éclipse et qui me disaient qu'ils ont demandé au ministère de l'Éducation d'acheter des lunettes pour tout le monde. Ça coûtait, je pense, ça revenait si tu n'achètes 20 cents par jeune.
Non,
20 quelques cents par jeune. Puis finalement, le gouvernement a dit non à ça, puis a piétiné. Puis ils ont étudié ce que certains veulent qu'on fasse avec Nordvolt. Tu étudies l'idée tellement longtemps que ben, par le temps que tu as étudié, il est trop tard.
Il est soleil, il relève.
C'est ça.
Le monde.
Bon, comme tu sais, Donald Trump a quelques ennemis,
oui.
Mais il y a toujours de la place pour des nouveaux. Et c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Devant, je sais pas pourquoi il est allé le chercher dans la foule, mais Harry,
Il a donné une entrevue à un média britannique.
Oui, exact. Au Daily...
Daily Mail, je pense.
Je pense que c'est le Daily Mail, oui, je ne vais pas dire de niaiserie. Je pense que c'est le Daily Mail. Il a dit donc que le prince Harry devrait être expulsé des États-Unis parce qu'il a trahi la reine et pour Donald Trump, c'est impardonnable et il serait le seul si ce ne tenait qu'à moi.
Mais c'est juste que...
C'est à TMZ, je pense. Ah non, excuse-moi,
non, c'est au Daily Mail. Non, mais ça m'a fait rire parce que sais-tu quoi? Moi, je me suis dit, dans le fond, Trump, ce genre d'affaires qui s'en fout. Il avait rencontré la reine, mais je pense pas qu'il l'aimait tant que ça. Fait que j'ai fini par me dire, ça, ils ont fait un sondage là-dessus, je suis convaincu. Ils ont mesuré, tu vois. Parce que c'est le genre de thème comme qui fait jaser beaucoup, là. Le prince Harry, t'es pour, t'es contre, Meghan, Harry. Je suis convaincu que l'équipe de Trump, là, ils ont segmenté l'électorat, puis ils ont dit, OK, dans certains groupes d'indécis, de femmes jeunes, 30 à 45 ans, non, mais je niaise pas, là, qu'on veut aller chercher, là, ben, eux autres, ils aiment pas du tout le prince Harry, tu comprends? Ils aiment Kate puis William, ils aiment pas le prince Harry. Fait que...
Puis il a réussi à dire
on
que...
On passe, là!
Et Joe Biden, pour Trump, est trop aimable avec Harry et envers lui, et c'est ce qu'il a fait, parce que la reine... veut pas, est morte, fait qu'elle est devenue encore plus intouchable qu'elle l'était avant. Fait que c'est sûr qu'aux États-Unis, il y a des gens, la reine, puis dans l'électorat républicain.
Bon. Mais de là, est-ce qu'il faut expulser des États-Unis?
Ben, il n'est pas encore citoyen, là.
Non, je sais bien.
Qu'ils peuvent le retourner d'où il est arrivé.
Résumé l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.